voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Si une méchante fée voulait d'un coup de baguette anéantir l'œuvre d'André Chanson, il est un mot auquel elle ne pourrait pas toucher.
Résister. Ce peuple cévenol est allé jusqu'au bout de la plus terrible et de la plus magnifique expérience que peuvent faire les hommes. Il a payé le prix du sang et des larmes pour rester libre, libre de la plus immatérielle des libertés, de cette liberté qui n'a d'autre asile que la conscience et d'autre forteresse qu'un cœur désarmé, même quand ce cœur est celui d'un guerrier de la montagne. Pour moi, l'Aigoual est le mont Horeb, l'Olympe et le Parnasse, la montagne sainte. Que ce soit au septentrion vers le Pompidou, ou au sud, dévalant les pentes abruptes vers les Bressous et le Masméjean, je tiens à cette montagne comme un lichen hyperboréen ou comme un arbrisseau de la Méditerranée. Si le monde menaçait de s'écrouler, c'est aux Bressous des Cévennes que je voudrais chercher un dernier refuge. Il me semble que sur la ruine de toute chose, sur tout ce que nous pouvons imaginer de ce commencement de l'apocalypse, les boules de feu dévastant les métropoles, les rats de marée effaçant les derniers rivages pour un temps qui se confondrait avec une éternité, cette demeure des Bressous resterait intacte au bord de son promontoire cristallin émergé du fond des âges. Qu'un livre, un seul, toujours lu et toujours relu, jamais achevé, jamais épuisé, toujours nouveau, toujours renaissant, ait été la consolation et la force d'un peuple entier au jour de son épreuve et dans la désolation, voilà ce qui doit frapper d'étonnement et d'admiration, non pas le croyant, mais l'incrédule, non pas l'homme de foi, mais celui qui veut tout comprendre avec la seule raison. J'écris pour le jour de la liberté. J'écris pour conjurer les maléfices de la défaite. Si nous avons déjà été vaincus, si nous avons déjà subi l'invasion, pas une seule fois, dans tous les désastres de notre histoire, nous n'avons été détournés de nous-mêmes comme nous le sommes aujourd'hui. Car ce n'est pas seulement le joug de l'étranger qui risque de précipiter notre déchéance, mais notre propre renoncement et d'abord ce silence auquel nous sommes condamnés. Car c'est aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir retrouver l'inflexible fierté qui sauve les vaincus de la honte.
Qui ouvre le livre écrit en 40 fut publié avec cette dédicace à la mémoire de Jean Prévost, mon ami, capitaine au maquis du Vercors, mort à l'ennemi le 1er août 1944.
Le jour de ma prise en charge des archives de France, mes principaux collaborateurs me firent effectuer le tour de la maison. Je marquai un temps d'arrêt devant l'acte de révocation de l'édit de Nantes. « Eh bien, messieurs, dis-je à ceux qui m'accompagnaient, je l'ai échappé belle. » J'ai passé ma vie à côté d'une compagne à l'âme stoïque. Ce stoïcisme l'a sans doute entraîné à se croire agnostique, alors qu'elle possède toutes les vertus d'une âme religieuse. De toute façon, quelle bonne compagne pour la vie et pour l'éternité. Sommes-nous une famille semblable à celle de ces peintres du XVIIIe siècle français ou de ces romanciers anglais dont l'art est la passion majeure? Toujours est-il que Frédéric, soit par la ligne paternelle, soit par la ligne maternelle, soit par sa propre pulsion, a hérité cette passion. Quand je prends un de ses écrits, j'ai l'impression d'être devant un bouquet de fleurs. Les images s'y succèdent avec une rapidité, une justesse, une harmonie qui me déconcertent. Je vois assez bien comment l'humour et l'exigence du jugement pourraient lui venir de ma femme, mais comment, de mes images à moi, qui tiennent plutôt du minéral, Frédéric a-t-elle pu passer à cette floraison qui se renouvelle sans cesse? Floraison qui n'est pas seulement dans les livres, mais dans la personnalité tout entière, qu'il s'agisse de lettres, de reparties, de sujets, d'art de vivre. Mais je suis en train d'ouvrir la porte de la vie privée. Refermons-la doucement. rendre grâce. J'ai pensé aux gens des galères. Quand ils se réveillaient, ils priaient Dieu le matin. « Mon Dieu, nous te remercions pour le soleil, pour le vent et même pour le mal avec lequel tu nous éprouves. » Cette non-mendicité à la divinité me paraît quelque chose d'infiniment consolant et sans doute d'infiniment protestant. La dignité de l'homme est peut-être là. La prière n'est pas une mendicité. Elle ne peut être qu'une explosion de gratitude. Le fait d'écrire, le fait de dire ce que l'on pense, c'est une prière, au sens traditionnel du mot. Même détaché de la foi, je suis toujours resté fidèle au protestantisme. Je ne puis autrement. Protestant de tradition, et sans doute même un peu plus. Les Cévenols sont protestants comme les Provençaux sont catholiques, disait Folco de Baroncelli. C'est leur façon d'être de leur pays. Il faudrait peut-être tout renverser. Ne pas chercher à dire ce que c'est que l'amour, mais ce que signifie son absence. N'est-ce pas le signe même de la destruction d'un homme ? Qui n'aime plus rien et détruit. Les hommes détruits. Les morts vivants. Qu'est-ce que c'est sinon les êtres qui ont perdu le pouvoir d'aimer ? Ils n'en ont plus la force. Ils n'en ont plus le temps, ils sont entrés dans un monde où tous les rapports se dénouent, où plus rien ne les rattache à ce qui n'est pas eux-mêmes. Ils sont incapables de retrouver cet univers de l'enfance et de la jeunesse qui n'est pas autre chose que l'univers de l'amour.
Je voudrais citer un passage de mon père dans La Reconquête quand il était avec André Malraux à la brigade Alsace-Lorraine. Il était venu à Paris pour chercher des chaussures pour ses soldats. Et voici la rencontre qu'il a faite. Au milieu du pont Neuf, un peu avant d'arriver à la statue d'Henri IV, je vis venir vers moi un magnifique guerrier d'une extraordinaire stature. Il ne perdait pas un seul pouce de sa taille dans un battle dress à la mode britannique. À 10 pas, il me fit un de ces saluts que les Saint-Cyriens appellent « fana ». En décomposant le mouvement en 2 ou 3 petits gestes saccadés à la façon des armées anglaises. Je lui rendis son salut, mon regard accroché au sien, et je lus par hasard le nom de son unité sur sa patte d'épaule. Jewish Legion. J'en reçus comme une décharge électrique. L'antique Israël venait de renaître devant moi, malgré les hécatombes des camps de la nuit et du brouillard, et c'était sous la figure d'un guerrier qu'il était venu à ma rencontre. « Dieu de David », me suis-je dit, comme l'aurait fait ma grand-mère, lectrice quotidienne des Écritures, « insensés ceux qui s'imaginent pouvoir effacer ton peuple de la surface de cette terre. » Cette pensée a toujours habité les gens de mes montagnes. Défenseurs obstinés du peuple qui leur a transmis ses règles de vie et son sentiment de l'éternité, ou pour tout dire d'un mot, du peuple qui leur a enseigné sa poésie.
Je suis de ce pays autant qu'on peut l'être. Je tiens à cette terre par les cimetières et les sillons. Je levais les yeux vers les cimes de la Luzette et du Lingas. Tout l'Ancien Testament me semblait consacré à la gloire de ces Cévennes au milieu desquelles je vivais. Les cèdres du Liban, les roses de Saron étaient les arbres de nos montagnes, les fleurs d'églantine de nos vallées, et même avant de les avoir vues de mes yeux, je les avais découverts dans les images des Écritures. Ces enfants nous ressemblaient comme des frères. Les mêmes misères et les mêmes maladies avaient traversé leurs familles et les nôtres pendant des siècles. Nos grands-pères s'étaient nourris des mêmes châtaignes, des mêmes fromages de chèvre, des mêmes salades des champs. Ils avaient bu les mêmes petits vins conservés dans les mêmes caves. Les mêmes eaux jaillissaient aux mêmes sources. Nous étions marqués des mêmes signes. Nous portions la même hérédité. Nous avions la même vitalité sauvage. Une seule chose nous séparait. Nous n'allions pas à la même école. Quand bien même je vivrais 100 ans, je n'oublierai jamais l'impression profonde que produisit sur nous la réapparition de la lumière. Les derniers rayons du soleil couchant jetaient une teinte rose pâle sur les saillies du rocher. On se serait cru sur une autre planète.